Le témoin de ce vendredi, Jean-Louis Debré, et tout de même Michel, et la Constitution de la Ve République.
La Ve République est officiellement née. Monsieur Michel Debré, garde des Sceaux, a apposé le sceau de l'État au texte constitutionnel. C'est cette dernière formalité qui donne force de loi à la Constitution, qui porte 25 signatures. Celle du président Coty, du général de Gaulle et celle des 23 ministres. La Ve République est entrée dans l'histoire.
C'était en octobre 1958, dans son ministère de la place Vendôme, Michel Debré, le garde, apposait les sceaux sur la Constitution dont il avait rondement assuré la gestation aux côtés du général de Gaulle. Aujourd'hui, la question est souvent posée, quelle part de responsabilité les institutions ont-elles dans la crise du politique que nous traversons? N'est-ce pas plutôt les hommes qui les appliquent qui sont à mettre en cause? Parmi eux, on voit présentement le président de l'Assemblée nationale composer une commission pour la réforme de la Constitution, tel ou tel autre militer pour une 6e République. Beaucoup d'idées sont jetées en l'air qui, sauf coup d'éclat, ne pourront retomber en réalité puisque, à la différence de 58, aucun consensus ne peut être espéré entre les différentes forces politiques survivantes. Au fond, la réforme du mode de scrutin serait moins difficile. François Mitterrand, afin de limiter les dégâts en 86, avait réintroduit la proportionnelle pour l'élection des députés, faire élire une assemblée ingouvernable composée d'un tiers de gauche, d'un tiers de droite et d'autant d'extrême droite, serait encore le moyen le plus commode pour bouleverser les équilibres d'une constitution qui bénéficie encore d'une légitimité unique dans l'histoire des républiques. Michel Debré doit se retourner dans sa tombe de n'avoir pu faire du scrutin majoritaire un article intouchable.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Jean-Louis Debré, monsieur le président du Conseil constitutionnel, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez un adolescent de 14 ans en 58. Le Conseil constitutionnel n'existait pas sous la 4e République. Vous ne pouviez imaginer avoir le destin que vous avez eu, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, député aux côtés de votre frère et de votre père en 1986. J'ai un malin plaisir quand même à vous mettre en porte-à-faux, vous, président, qui ne pouvez, dans vos fonctions, vous exprimer tout à fait librement en évoquant ces questions chaudes d'actualité et de révision constitutionnelle.
Écoutez, non, je vais être très prudent, mais quand on reprend l'histoire de France, on se rend compte que les institutions ou la réforme des institutions est souvent un alibi pour les politiques, pour ne pas s'interroger sur leur comportement. J'entends aujourd'hui dire il faut une 6e République. Vous savez qui est le premier qui a lancé cette idée? C'est un professeur de droit, quelque temps après que la Constitution de 1958 ait été approuvée par le peuple, le professeur Duverger, car il expliquait à toutes les facultés et à tous les étudiants que jamais la Constitution de la 5e République ne survivrait à De Gaulle. De Gaulle est parti, la Constitution de la 5e République a permis l'alternance politique, plusieurs alternances politiques, a permis la cohabitation. La Constitution de la 5e République a traversé des crises économiques, des crises politiques, des crises sociales, elle est toujours là. Et la même chose qu'on entendait sur la 4e République pour empêcher la 4e de se réformer, les hommes politiques préfèrent regarder les institutions, critiquer les institutions, plutôt que de s'interroger sur leurs responsabilités.
Oui, mais enfin, votre père, Michel Debré, il s'est toujours intéressé aux institutions. Juste une note personnelle cette fois, Jean-Louis Debré. Vous parliez de ça à 13 ans, 14 ans, à table, quand la famille écoutait la famille du raton sur Radio Luxembourg.
Non.
Vous étiez la famille de la colère, vous d'ailleurs, une famille
d'opposants. J'avais 14 ans et un enfant de 14 ans ne s'intéresse pas au droit constitutionnel. Nous nous intéressions, par contre, à la France, puisque toute notre éducation, toute notre formation était la France. Je me souviens, j'ai un souvenir d'enfance, c'est que tous les 18 juin, on nous emmenait au Mont-Valérien. Et je me souviens parfaitement, le 18 juin 1958, alors que tous les autres 18 juin auparavant, il y avait très peu de monde autour du général de Gaulle. Quelques vieux compagnons fidèles et que le général passait lentement et nous tapotait sur la joue. Et tout d'un coup, 58, beaucoup de monde, des préfets, des militaires, des journalistes. Et j'ai su, à ce moment-là, j'ai compris ce que c'était que la courtisanerie politique.
C'était après le 13 mai, le coup d'éclat des putschistes militaires à Alger, le risque d'éclatement de la France, l'appel de René Coty, le président de la République, au général de Gaulle, président du Conseil, Michel Debré est garde des Sceaux. Il raconte dans ses mémoires que quand il arrive à Matignon, il est tout à fait étonné parce que toutes les portes qui s'ouvrent font surgir des visages amis et il se dit, alors là, on est au pouvoir.
J'ai été l'interlocuteur du général de Gaulle en matière constitutionnelle. Je n'étais pas le seul, mais j'ai été le permanent. Depuis 1945, 44 peut-être même, j'avais pris des positions claires au moment de la constitution de la 4ème République. Je n'avais pas cessé de combattre les institutions. Je n'avais pas cessé de réfléchir au problème de la constitution de demain. On oublie aussi que les anciens présidents du Conseil, M. Guy Mollet, M. Fulin, M. Antoine Pinet, en avaient, si j'ose dire, ras-le-bol de la constitution de la 4ème République. Ras-le-bol de quoi? Ras-le-bol du sentiment qu'un gouvernement républicain tel qu'il existait sous la fin de la 3ème et 4ème n'était pas un gouvernement. C'était une sorte de commission que les parlementaires méprisaient, que les parlementaires pouvaient rejeter d'un moment à l'autre, qu'il n'y avait aucune possibilité d'avoir une politique claire, une politique définie, une politique longue, une politique réfléchie, et qu'à chaque instant, le gouvernement risquait d'être balayé pour une question subsidiaire.
Alors, on a oublié ça. Il veut faire vite, le général de Gaulle. Michel Debré a préparé les choses depuis longtemps. Il n'est pas question que ce soit le Parlement, sous forme d'assemblée constituante, qui prépare lentement une constitution. Mais, en même temps, il y a un consensus autour des principaux acteurs, avec nombre d'anciens dirigeants de la 4ème République.
Oui, mais mon père vient de dire à l'instant, beaucoup d'hommes de la 4ème République, éminents, on en a assez de cette constitution de la 4ème qui est organisée pour qu'il n'y ait pas d'État, pour qu'il n'y ait pas de pouvoir. N'oublions pas qu'en 10 ans ou 11 ans de 4ème République, il y a eu 10 gouvernements. C'est-à-dire que la moyenne durée d'un gouvernement, c'était 8 à 9 mois. Si on met bout à bout tous les moments où la France était en crise ministérielle, pendant un an, il n'y a pas eu de gouvernement. Et le jeu principal du Parlement était de défaire le gouvernement. Et d'ailleurs, toutes les mesures qui vont être prises par mon père, ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé, est justement fait pour permettre au gouvernement de gouverner. Les constituants en 1958, mon père, René Capitan, le général de Gaulle, analysaient l'histoire de la 4ème et la 3ème République comme la volonté permanente des parlementaires de gouverner à la place du gouvernement.
Et donc, vous avez été président de l'Assemblée nationale et votre père était aussi parlementariste d'une certaine manière dans la mesure où il voulait que le Parlement contrôle. Ce qu'il refusait, c'était que le gouvernement gouverne.
Oui, il y a une disposition dont on parle peu qui était essentielle pour mon père dans la constitution de la 5ème République, c'est la séparation entre le domaine de la loi et le domaine du règlement. La loi, elle doit être pour ce qui est essentiel, les libertés, les impôts, les grandes questions. Et je me souviens, il me citait toujours, quand je faisais mes études de droit, mais tu vois, comment la 4ème était à ce point déréglée. Il y avait eu une loi pour dire quelle était la taille des poissons qu'on devait rejeter dans les rivières quand on pêchait. Il me dit, mais c'est pas la loi de faire ça, c'est les règlements. Par contre, la loi, elle doit déterminer les impôts. Par contre, la loi, elle doit dire quelles sont les grandes libertés. Et l'article 34, qu'il a voulu, énumère tous les grands sujets qui doivent être votés par les représentants du peuple. Le reste étant du pouvoir gouvernemental.
Alors, vous citez Capitan, parce qu'il a été votre maître, vous citez Debré et De Gaulle, mais il y avait tout un comité de légistes. Il y a d'abord eu un groupe d'experts, il y avait beaucoup de gens du Conseil d'État, et ensuite, il y a eu le Conseil consultatif constitutionnel. Nous sommes à la Radio Nationale, très nationale, vous allez entendre, le 4 août 58.
L'événement le plus important en matière de politique intérieure aujourd'hui, c'est la venue du général de Gaulle devant le comité constitutionnel consultatif. Jean Rey, avez-vous des précisions sur cette séance qu'on peut qualifier d'historique?
Oui, le général de Gaulle est arrivé à 15h15 au Palais Royal, siège, vous ne l'ignorez pas, du comité constitutionnel consultatif, au milieu d'un grand concours de journalistes, de photographes et de cinéastes. Malgré le mauvais temps, le public attendait le général et quand sa voiture est apparue, les cris de « Vive de Gaulle » ont éclaté dans la foule et les applaudissements furent fort nourris. Le président du Conseil, accompagné de M. Fouette-Boigny, ministre d'État, et de M. Debré, garde des Sceaux, a été accueilli à son arrivée par le président du Comité consultatif constitutionnel, M. Paul Reynaud. La séance du comité s'est ouverte aussitôt d'après, mais comme vous le savez, les débats se déroulent à huis clos. Il était 16h40 quand le général a quitté le Palais Royal, accompagné par M. Paul Reynaud. Quelques instants plus tard, on apprenait que l'exposé du président du Conseil avait fait sur le comité une impression profonde.
Une impression profonde. Le vieux Paul Reynaud, moi je pensais que c'était Michel Debré, le premier gaulliste, mais non, le premier gaulliste qualifié comme tel en 58, c'est Paul Reynaud.
Je vais revenir un tout petit peu à ce que vous avez dit. Il faut bien voir, et on ne le dit pas assez, que le premier projet, avant même que les experts, le Conseil d'État n'interviennent, etc., a été élaboré dans des entretiens précis entre mon père et mon général et le général de Gaulle.
C'est pas mal, mon général.
Mon général,
vous souvenez, c'était la formule du canard.
Non, mais on rappelle mon général. On se rappelait mon général. Et ainsi, par exemple, le général a convoqué mon père qui devait rédiger en disant voilà les questions qui sont pour moi essentielles. Je veux que le président de la République, dans certaines circonstances, puisse faire appel au peuple par le référendum. Je veux que le président de la République ait le pouvoir seul de dissoudre l'Assemblée nationale. Je veux que le président de la République soit élu par un suffrage qui dépasse celui des simples députés et sénateurs. Bref, ce que je veux dire, c'est que, naturellement, il y a le comité consultatif constitutionnel, naturellement, il y a le comité d'experts. Mais avant ça, il y a eu une réflexion institutionnelle pendant toute la 4ème République, d'ailleurs qui s'est marquée, et le général de Gaulle l'a montré, par le discours de Bayeux et par le discours d'Épinal, puis au fur et à mesure qu'on arrive vers la constitution de la 5ème République, les notes entre mon père et le général se multiplient, on le voit bien dans ses archives, puis en 1958, il nomme mon père garde des Sceaux pour rédiger, alors il y a tout un habillage, comité consultatif constitutionnel, ministre d'État, mais il y a sans arrêt des entretiens pour dire, de Gaulle dit, voilà ce que je veux. Et en réalité, on voit très bien deux choses, que la constitution de la 5ème République est faite de deux parties, une partie qui concerne le président de la République, et là, c'est de Gaulle. Et c'est de Gaulle qui, ayant été révolté par l'incapacité du président Lebrun d'incarner l'État, d'être l'État au moment en 40, veut que le président de la République ait tous les pouvoirs. C'est, en réalité, la transcription du fil de l'épée où de Gaulle dit, face à des événements, l'homme de caractère fait face et fait front. Ça, c'est disposition. Et le reste sur le parlementarisme rationalisé, c'est mon père.
Oui, je veux bien. Il y a le général, avec un G majuscule, comme l'écrit dans ses mémoires votre père, et Michel Debré, mais moi j'ai entendu deux fois, trois fois le nom de Paul Reynaud. Il y a les ministres d'État qui appartiennent aux différents groupes politiques. C'est étonnant d'ailleurs, ce rôle de Paul Reynaud, parce que le premier des gaullistes, c'est Paul Reynaud, c'est pas votre père.
Je sais pas si le premier des gaullistes, c'est un gaulliste. Hein. Le premier des gaullistes, c'est le général de Gaulle.
Vous avez aussi entendu, dans l'archive qu'on a passée, Jean-Louis Debré, le journaliste dire, le général a fait une forte impression. On ne peut pas dire que l'opinion publique ait été beaucoup informée des délibérations constitutionnelles pendant été où vous passiez vos vacances, à la mer.
D'abord, hein, ministre d'État, il y a un autre personnage qui a joué une influence, qui a un rôle important, c'est René Coty. Et René Coty, qui a été reçu par le général de Gaulle et qui a été reçu très souvent par mon père pendant cette période, c'est à lui qu'on doit par exemple la disposition permettant à titre exceptionnel au Premier ministre de supplier le chef de l'État pour la présidence du Conseil des ministres.
C'est quand même bien le moins que le président de la République.
Mais je dis pas que c'est le moins.
Il est toujours président de la République, soit reçu par le président du Conseil et le garde des
Sceaux. Le général de Gaulle sait ce qu'il veut. Il sait d'une part comment il veut créer l'architecture de cette nouvelle institution. Il nomme un de ses fidèles, mon père, pour rédiger, et celui-ci associe à cette rédaction institutionnellement les ministres d'État. Je prends un exemple, si vous voulez. Il y a un certain nombre de dispositions que mon père n'est pas arrivé à faire intégrer parce que les ministres d'État n'ont pas voulu. Deuxième remarque, on s'intéresse pas beaucoup, mais il faut bien voir que cette constitution, elle est rédigée entre le mois de juin 58 et la fin septembre 58. Et donc les Français sont en vacances et surtout ils viennent de vivre des mois extrêmement difficiles avec les événements d'Algérie de mai. On a évité la guerre civile. De Gaulle s'est fait attribuer par l'Assemblée nationale des pleins pouvoirs en respectant un certain nombre de principes. Maintenant, c'est à lui d'agir, car on sait dans ces principes que le projet de constitution sera soumis au vote du peuple.
Alors avant le vote du peuple, la politique étant un art et nécessitant donc de la mise en scène, André Malraux et d'autres proposent d'organiser une réunion au pied de la statue de la République de Dalou, place de la République, pour l'anniversaire de la proclamation de 1870. Le ministre de l'Intérieur est contre.
Tous les ministres de l'Intérieur sont contre toutes les manifestations. Je l'ai été. C'est toujours le moment où il risque d'avoir des incidents, donc on est contre les manifestations.
Pour occuper le temps, dites-vous, on demande au radical Berthoin, qui est un des ministres, de prendre la parole le premier. C'est sans importance.
Mais De Gaulle n'est pas encore là.
Ouais.
De Gaulle n'est pas encore là. Et vous savez, une des caractéristiques du général De Gaulle, c'est d'avoir probablement le premier compris que la politique, c'était aussi un métier du spectacle. Et qu'il fallait organiser un spectacle. Il faut solenniser le spectacle. Alors, qui mieux que Malraux doit faire la scène? Alors, on met Malraux juste avant De Gaulle, comme on le fera pour le transfert des cendres de Jean Moulin quelques années plus tard. Et cette voix de Malraux...
Attendez, non, la voix de Malraux, elle est figurez-vous. Vous ne vous souvenez pas que vous n'étiez pas là, vous avez regardé la télé. Jacques Sigal, notre réalisateur, lui, il était là, place de la République. Il commence très bas, Malraux.
Oui, il commence et monte.
Il monte, il a beaucoup de mal à tenir ses lunettes sur son nez, et voilà.
Au-delà des textes juridiques, fussent-ils les meilleurs, vous choisirez entre la volonté de résurrection nationale et l'effacement de notre pays. En réponse à un homme qui tient de l'histoire le droit de nous appeler en témoignage, mais dont l'entreprise ne peut tenir que de vous sa légitimité. Écoute pour la France, République de bronze, la réponse de la vieille nef glorieuse. Ici Paris, honneur et patrie, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire. Vous allez entendre le général de Gaulle.
Elle est née dans le Paris, 1790, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys. Marianne a 5 enfants qu'elle aime de son mieux. Marianne a maintenant quelques rires au coin des yeux. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris en chantant à pleine voix.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
À l'époque où d'aucuns réclament une 6e République, l'écriture de la Constitution de la 5e en 1958 avec Jean-Louis Debré, actuellement président du Conseil constitutionnel. Vous avez tous les objets de collection que vous aimez, vieux vinyle d'André Malraux et des Marianne, je crois que vous collectionnez les Marianne, c'est,
absolument.
C'est bien connu, suit le référendum, c'est sans surprise, parce que, à part quelques excentriques, comme les communistes, Pierre Mendès France et François Mitterrand, on n'a pas retrouvé d'archives de la campagne électorale officielle diffusée à l'époque par la radio, pratiquement tout le monde, et pour le oui, et le pourcentage de oui est de 79%, avec très peu d'abstention.
C'est une adhésion à De Gaulle, c'est une adhésion à la Constitution, et c'est la preuve pour les gaullistes que une nouvelle pratique institutionnelle est possible.
C'est là que vous faites vos débuts de colleur d'affiche?
Alors, quand j'ai pas d'affiche, je me souviens, on avait 14-15 ans, et on était allé un soir à 4 ou 5 copains, on avait trouvé de la chaux, et on avait marqué oui à la France, et une croix de Lorraine, et pendant toute la journée du lendemain, on était passé devant pour voir notre exploit, tellement on était content d'avoir fait ça.
Oui, mais vous avez expliqué vous-même que vous ne compreniez pas grand-chose à la chose juridique, c'était le cas de beaucoup de Français, vous venez de dire que c'était une adhésion au général de Gaulle. Je vous rappelle la phrase d'un grand juriste de l'époque, Georges Vedel: avec la Constitution suisse, De Gaulle aurait gouverné pareillement.
Oui, sûrement, il a raison. Mais la caractéristique de la Constitution de la Ve République, contrairement à ce que tous les grands professeurs ont pu dire, c'est qu'elle a survécu à De Gaulle. Personne n'imaginait en 58 qu'elle allait survivre à De Gaulle. On disait, elle a été faite pour lui. Or, démonstration, De Gaulle démissionne, il y a une vacance du pouvoir, il y a une élection, Pompidou meurt en cours de mandat, il y a une élection, il y a un affrontement entre les gaullistes et les centristes, Giscard est élu, puis alternance politique après 30-20 ans de droite.
Michel Debray, votre père raconte dans sa mémoire d'ailleurs qu'à cette époque, on l'invite à faire un débat avec François Mitterrand, c'est juste avant l'alternance de 81.
Armes égales,
ça fait. Et il pense que ça va être chaud.
Eh ben non.
Oui. Mitterrand reconnaît déjà à l'avance l'intérêt des institutions de la Ve.
Et quand il a été président de la République, Mitterrand, qui a été le principal procureur des institutions de la Ve République, va être celui qui va probablement le mieux les appliquer. Et il va se fondre dans le moule de la Ve République de façon extraordinaire. Et il va donner à la fonction présidentielle une dimension qui correspond à ce que souhaitaient De Gaulle et les gaullistes.
On ne sait pas ce qu'il advient d'une constitution quand on la rédige.
Non, mais quand on a rédigé cette constitution, non pas pour des considérations idéologiques, mais par une analyse très précise des causes du dérèglement institutionnel de la 4e et de la 3e République, on est sûr qu'on ne va pas commettre les mêmes erreurs.
On ne sait pas ce qu'il advient, on ne pensait pas non plus qu'il allait advenir ce qu'il est advenu de l'instance que vous présidez, le Conseil constitutionnel, qui est devenu beaucoup plus importante que votre père ne l'avait prévu. Je ne sais pas d'ailleurs ce que votre père vous dirait aujourd'hui.
Je ne sais pas, mais je n'ai pas l'habitude de lui faire parler. Et ce qui est certain, c'est que l'institution que je préside n'a rien à voir avec celle qu'il avait imaginée. En 1958, le rôle du Conseil constitutionnel est d'être une institution politique qui veille en réalité au bon fonctionnement du régime parlementaire et qui doit éviter que le Parlement n'intervienne dans le domaine du gouvernement et fasse respecter l'article 34 et 37. Or, aujourd'hui, nous sommes devenus une véritable juridiction constitutionnelle avec la possibilité d'annuler des lois déjà votées et appliquées. Cette réforme qui a été mise en application par moi, on l'avait voulu avant que je n'arrive, Ballinter l'avait souhaité, Mitterrand l'avait refusé, parce que Mitterrand, comme mon père probablement, c'est une époque du parlementarisme où on considère que la loi, pour reprendre l'expression d'un très grand juriste du XIXe siècle, est l'expression de la volonté générale et qu'il n'est pas question qu'on bouge et qu'on modifie cette expression. Les choses changent, le monde change, et qu'aujourd'hui, la question prioritaire de constitutionnalité qui permet à chaque citoyen de nous saisir de l'application même d'une loi très ancienne, eh bien, c'est un droit nouveau. Eh bien, les choses évoluent.
Vous n'avez pas l'habitude de faire parler votre père, heureusement, parce que, jamais, vous maudirait-il, nous avons pris l'habitude dans cette émission, depuis que vous êtes notre invité, d'entendre votre père, une dernière fois.
Et j'ai toujours dit, j'ai toujours regretté que l'on dise que la Ve République était uniquement une constitution. La Ve République est une constitution, c'est vrai, une constitution différente de celle de la 3e et de la 4e, dans son principe. Mais la Ve République était aussi un esprit de volonté, une volonté de faire en sorte que la France soit une grande nation.
une nation au premier rang. Et c'est en cela, me semble-t-il, que tout ce qui a été fait mérite d'être noté, étudié.
La Constitution, on sait ce qu'il advient d'elle, et la cinquième est beaucoup plus qu'une Constitution. Et ce qui est important, ce sont les hommes qui appliquent la Constitution.
C'est essentiel. De mauvaises institutions ne peuvent pas aboutir à une bonne politique, mais une bonne Constitution n'arrive pas forcément à aboutir à une bonne politique. Il faut que celles et ceux qui appliquent les institutions de la République respectent un certain nombre de principes et une certaine conception du rôle et de la place de l'État.
Dites-moi, Michel Debray, ça vous pouvez le raconter, avait une conception très stricte de l'économie, de l'éthique. Quand on est ministre, on paye ses notes d'électricité, on est extrêmement strict. Votre maire tenait les comptes journaliers à Matignon.
Oui, c'est une autre époque. Hein. Je me souviens que quand on partait en vacances, quand mon père était Premier ministre, il prenait l'avion du gouvernement et nous prenions le train. C'était tout à fait normal. Quand nous allions à l'école, il n'était pas question de prendre la voiture de Matignon, nous prenions nos billets. Et je me souviens un jour, j'étais furieux, puisque j'avais vu dans un journal satirique qui parlait le mercredi, que j'arrivais au lycée avec une voiture officielle. Et donc j'arrivais avec mon Solex, et du coup j'ai dessiné une grosse cocarde bleu, blanc, rouge que j'ai mis devant mon Solex. C'est une autre époque où on ne confond pas la vie privée et la vie publique, et on ne confond pas les deux.
Et le général de Gaulle avait deux compteurs électriques, ça fait partie du légendaire, et c'est peut-être même la vérité, un compteur privé qu'il avait fait installer à l'Élysée. Il n'a pas réussi, Michel Debray, à convaincre en tout le général de Gaulle, il n'a pas réussi à le convaincre d'intégrer dans la Constitution, la question du mode de scrutin. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de modifier la Constitution de l'État du rapport de force politique de 2014. C'est possible par une loi d'introduire, par exemple, de la proportionnelle.
Alors, si vous voulez, au lendemain de la guerre, le général de Gaulle a institué la proportionnelle, mais c'était dans un souci de réconciliation nationale. En 1959, j'ai retrouvé les documents, mon père souhaite que soit inscrit dans la Constitution le principe majoritaire. Alors, il choisit pas, mon père était partisan d'un scrutin majoritaire à un tour, mais il ne va pas jusque-là. Il dit, inscrivons le principe majoritaire, car la proportionnelle a tué la troisième, a tué la quatrième, aussi, et tuera la cinquième si on l'applique. Pourquoi ? Parce que la répétition de la proportionnelle consiste à multiplier les partis, et donc il n'y a pas de majorité, il y a des majorités de circonstances, c'est-à-dire l'absence de majorité. Or, pour mon père, l'élection, le suffrage, doit permettre la constitution d'une majorité et d'un contrat de majorité. Au surplus, avec la proportionnelle, qui gouverne ? Ce n'est pas les grands partis, c'est le petit parti qui va pouvoir aller à droite, à gauche, et monnayer ses voix. C'est ce qu'on trouve dans tous les pays du monde où il y a la proportionnelle.
Mais il est légitime quand même qu'une force comme le Front National soit représentée. Imaginons la proportionnelle introduite par François Hollande aujourd'hui, comme Mitterrand l'a fait en 1986. Il y aurait un tiers d'extrême droite, un tiers de droite, un tiers de gauche. Ça nous ferait une assemblée ingouvernable, mais avec une représentation plus juste.
On n'arrivera jamais à s'entendre. Parce que quelle est la finalité d'un mode de scrutin ? Est-ce que c'est donner une photographie de l'opinion publique ? Alors là, il faut faire des photographies sans arrêt, puisque la photographie, elle peut se voiler. Ou est-ce que le mode de scrutin est de permettre la constitution d'une majorité pour permettre à un gouvernement d'agir ? Pour mon père, pour un certain nombre de constitutionnalistes, la finalité d'un mode de scrutin est le fait que le mandat dure pas trop longtemps est de permettre la constitution d'un gouvernement homogène qui gouverne au nom de la France.
Merci à vous, Jean-Louis Debray. Vous avez évoqué l'écriture de la constitution de la Ve République par votre père. L'émission était préparée par Ilinka Negulesco, Franck Olivard, Marion Philippe et Frédéric Martin. À la technique, Julien Dumont. Et la réalisation, c'était Jacques Sigal.